Bonsoir. Tout d'abord, je remercie l'université. Vous m'entendez comme ça? Ça marche? Ou vous préférez le micro? Le micro? Si, il marche, mais il n'est pas. Donc, il faut. Mais là, ça va? C'est peut-être mieux pour moi. Donc, excusez-moi, je n'arrive pas à tenir en place, donc je préfère être debout. Si ça vous stresse, je m'assierai quand même. Alors, je remercie donc l'université et le centre pour cette invitation, qui me donne l'occasion de vous montrer un peu une vieille histoire qui reste quand même intéressante. Et donc, je vais vous dire un peu, faire un résumé des 11 questions, plus une douzième, qui vont structurer cet exposé. Alors, nous avons décidé de partir à zéro, en fait, et si jamais vous voulez plus de discussions, approfondir, il restera du temps jusqu'à... On peut être ici jusqu'à 20 heures, c'est ça? Pour maximum.
Tout le monde s'en sortira.
Pour discuter. Donc, partir à zéro, ça veut dire... C'est quoi la machine anticitaire? C'est quoi anticitaire déjà? Et la machine? Et je vais vous dire, sans vous le prouver, que c'est un calculateur astronomique. Donc, c'est quoi un calculateur astronomique? Et pourquoi la machine? Troisième question, devrait-elle être un calculateur astronomique? Ceci, c'est le résultat d'un siècle de recherche. Donc, qui sont ceux qui ont disséqué cette machine et qui ont abouti à cette conclusion? Et pourquoi, Vincent Julien vous l'a dit, les recherches continuent à ce jour? Il y a eu un grand programme de recherche et des données ont abouti. Et entre autres, il y avait plusieurs inscriptions inconnues que nous avons pu lire. Ça, c'est la septième question. Avec tout ça, nous pourrons répondre à la question « Qu'y a-t-il sur les cadrans de la machine ?» qui sont un peu comme les cadrans d'une montre, mais ce n'est pas une montre. Et vous verrez que c'est quand même une machine assez singulière. Donc, neuvième question, est-ce que cette machine est une singularité de l'histoire des sciences et des techniques? Attention, toutes les questions n'ont pas nécessairement une réponse. Puis, qui a construit cette machine et où? Est-ce qu'il reste des choses à découvrir? Et puis, la dernière question, qui est une question surprise. Donc, voilà. Alors, c'est quoi la machine anticitaire? C'est quoi anticitaire, déjà? Anticitaire, c'est une petite île, vous voyez là, en médaillon, entre, juste en dessous de Citère, qui est entre le Péloponnèse et la Crète. Et c'est un lieu où il y a toujours eu des naufrages. C'est un lieu de passage entre la mer Noire et la mer Méditerranée, l'Ouest, l'Occident. Et les conditions météorologiques sont très difficiles. Alors, en 1900, au printemps 1900, des pêcheurs d'éponges, alors vous voyez sur la droite de l'écran une photo de pêcheurs d'éponges. Les pêcheurs d'éponges de la mer Égée sont surtout originaires de deux îles, Kalymnos et Simi. Nos pêcheurs d'éponges, ceux qui ont découvert la machine anticitaire, était originaire de Simi, qui à l'époque, en 1900, faisait partie prenante de l'Empire ottoman. La photo, c'est des pêcheurs de Kalymnos, et qui ont été photographiés dans une colonie grecque en Floride, à Tarpon Springs. Il n'existait pas, jusqu'il y a quelques mois, de photos des pêcheurs d'éponges qui ont repêché l'épave d'anticitaire. Donc, à l'île d'anticitaire, en 1900, des pêcheurs d'éponges qui étaient en route vers l'Afrique du Nord pour la saison des éponges, qui dure pendant tout l'été, découvrent l'épave d'un bateau romain. En revenant à Simi à l'automne 1900, ils alertent les autorités grecques. Donc, ils ne disent rien, évidemment, aux autorités ottomanes. Et les autorités grecques mettent sur place, avec les renforts de la marine royale à l'époque, vous voyez deux navires, et il y avait quatre navires qui partent à l'expédition, une grande expédition qui est très connue parmi les archéologues pour être la première expédition archéologique sous-marine de l'ère moderne. Nous avons découvert, ici cette photo, c'est l'île d'Anticitaire avec le caïque, un des deux caïques des pêcheurs d'éponges, mais pas lors de la découverte, pendant l'hiver 1901, lors de la première expédition. Et cette photo, qui est toute récente, je veux dire, elle a été scannée récemment par les archives de la Société archéologique d'Athènes. Elle était inconnue jusqu'il y a quelques mois. C'est le navire de guerre avec tout l'équipage et les pêcheurs d'éponges en bas à droite qui sont en train de remonter une grosse statue. Vous voyez au centre de l'image, un peu vers la gauche, sur un treuil, quelque chose de gros qui remonte. Alors, la presse grecque et la presse internationale à l'époque a couvert cette expédition. Il y a des centaines de coupures de presse parce que, vous voyez, ça c'est le musée archéologique à Athènes, le musée très rapidement a été rempli de statues et d'autres objets. Il y a au moins 200 objets qui sont venus de ce naufrage. C'était une galère romaine de 60 à 80 mètres de long à peu près, qui a sombré environ en 80 avant notre ère. Alors tous les objets en provenance du naufrage ont abouti donc au musée national archéologique à Athènes, et vous pouvez le visiter. Vous voyez ici, c'est la cour intérieure. Alors il y a les statues qui sont à demi rongées par la mer. Tout ce qui était enfoui sous le sable reste intact. Vous voyez, il y a du verre. Il y a la statue en bronze à droite, c'est l'Éphèbe d'Anticythère. C'est une statue très connue. Et il y a aussi, voilà, dans la salle de la collection des bronzes, il y a trois petits fragments. Le gros au centre avec la forme de croix est de cette taille, à peu près. C'est les trois fragments principaux de ce qui a été appelé plus tard la machine d'Anticythère. Mais en fait, dans les collections du musée, il y a 82 fragments qui constituent un puzzle. C'est à peu près, nous pensons que c'est le tiers de ce qu'il y avait avant la destruction de la machine, qui devrait avoir la taille à peu près d'une petite boîte à chaussures. Donc ces 82 fragments, c'est ce qui reste d'un calculateur astronomique. Là, je vous assène comme ça le calculateur astronomique. On oublie un peu la machine d'Anticythère et je vais essayer de voir un peu c'est quoi un calculateur astronomique. En prenant quelques exemples avec des systèmes plus ou moins modernes qui font des calculs astronomiques, mais des calculs qui sont d'une certaine manière reliés à ce que faisait la machine d'Anticythère. Donc j'anticipe un peu ce qui va être détaillé plus tard. Ici, c'est une page web en grec avec un petit algorithme qui calcule les dates de Pâques et des fêtes qui sont attachées au calendrier orthodoxe. Sur la gauche, il y a un article de Wikipédia sur le calcul de la date de Pâques. Vous savez que la date de Pâques bouge tout le temps. Il y a même eu, je crois que c'est Gauss, le mathématicien qui s'était attablé et a trouvé la superbe formule pour le calcul de la date de Pâques. Mais en fait, ce problème-là est relié au cœur de ce qui nous intéresse pour la machine d'Anticythère. Si vous faites un test et vous entrez différentes dates, ici il y a la date pour 2009, et ça donnait le 8 avril, je crois, et vous faisiez bouger les années, vous verrez que à peu près Pâques retombe à peu près à la même date, le même dimanche, après 19 ans. Et ce chiffre 19 est très important. Donc on peut jouer avec ce logiciel et voir une périodicité qui est connue au moins depuis le 5e siècle avant notre ère. Alors pourquoi la date de Pâques bouge-t-elle? Parce que comme vous voyez sur la gauche, Pâques est calculé, c'est le premier dimanche après la première pleine lune, après l'équinoxe de printemps. C'est donc la pleine lune. C'est donc le calcul de la date de Pâques est basé sur le calendrier lunaire. Or, dans un mois lunaire, de la nouvelle lune à la nouvelle lune, par exemple, ou de la pleine lune à la pleine lune, il y a 28 jours. Et ces 28 jours, on n'arrive pas à avoir un nombre de mois complet pour faire une année solaire. Et comme notre calendrier, c'est un calendrier solaire, la date de Pâques étant calculée selon un calendrier lunaire, elle ne tombera jamais, ou presque jamais, à la même date. Et le problème, c'est que depuis les civilisations mésopotamiennes et en Égypte, les astronomes connaissaient très bien ces phénomènes et avaient à côté, côte à côté, les deux calendriers, le calendrier lunaire et solaire, et essayaient un peu de trouver les périodes communes à ces deux calendriers. Et or, une de ces périodes-là, c'est le cycle de 19 ans, qui a été appelé plus tard le cycle de Méton. En 19 ans, vous avez presque exactement 235 mois lunaires. C'est-à-dire que si il y a par exemple Pâques à une certaine date, ou plutôt oublions un peu Pâques, si la Lune se trouve à une certaine position relative au Soleil aujourd'hui, après 19 ans, ils auront la même position relative. Ce cycle, il a été affiné un peu plus tard, quelques siècles plus tard, par un astronome athénien du nom de Calippe. C'est le cycle calippique, qui est de 4 fois 19 ans, 76 ans, moins un jour. Donc, j'ai fini avec le premier exemple de calcul astronomique, et je vous ai dit un peu la relation avec un calendrier ancien. Deuxième exemple, les calculs, les prévisions des dates des éclipses. Ici, c'est le site, peut-être le site le plus complet, avec une base de données énorme sur toutes les éclipses passées et à venir, et aussi avec un appareil historique assez complet. Vous voyez, je ne sais pas si c'est lisible, hein, sur l'introduction à gauche qui est en anglais, il donne comme exemple de système à calculer les éclipses le calculateur d'Anticythère. C'est donc le site de la NASA. Et nous verrons plus tard que la machine d'Anticythère servait aussi à prévoir, selon un schéma numérique babylonien, les dates des éclipses. Autre exemple, c'est un logiciel astronomique classique. Celui-là, c'est un logiciel libre avec lequel vous pouvez entrer une date et avoir tout de suite une représentation du ciel pour une date donnée et à une longitude et latitude donnée. Ici, nous voyons la Lune. Les noms sont en grec. Donc, vous avez Aphrodite, Vénus, vous avez Arès, Mars, et ainsi de suite. Dernier exemple, c'est un exemple mécanique. Et là, nous sommes très près du mécanisme d'Anticythère. Ceci, c'est un planétarium de poche de cette taille. Je ne sais pas s'il y a des amateurs astronomes parmi l'assistance. Et ce qui est très intéressant, je crois que celui-là a été fabriqué en 1990. Vous voyez que tout autour, il y a un calendrier. Janvier, février, etc. Vous faites tourner la partie en plexiglas et vous pouvez vous positionner sur une date précise. Et grâce à un jeu de roues dentées en plastique, les planètes bougent tout autour de la Terre et du Soleil. Donc vous pouvez en gros voir les positions relatives des planètes sur le zodiaque qui est tout autour avec les dates. Souvenez-vous de ça, tout à l'heure, on utilisera cette notion pour voir un peu comment fonctionne la machine d'Anticythère. Donc, là, vous voyez, je fais un aller-retour. Si nous ouvrions ce planétarium de poche, à l'intérieur, nous verrons des tas de roues dentées. Donc, tout un système d'engrenage en plastique. Et il y a aussi des inscriptions et un calendrier. Là, je soutiens que nous pouvons faire la même chose avec la machine d'Anticythère. Et ça a été fait très tôt. Cette photo d'archive date de 1905 et elle a été retrouvée dans la bibliothèque de Munich. Elle a été prise par le philologue Albert Rehm. Et il y a des annotations en allemand. Albert Rehm était très méticuleux et il essayait de lire les bribes d'inscription, vous voyez en haut à gauche, et il essayait aussi de compter le nombre de dents qu'il y avait sur certaines roues dentées qui étaient visibles à l'œil nu. Albert Rehm s'est rendu compte très rapidement que qu'il s'agissait d'un appareil astronomique. Il avait même dit que c'était un planétarium. Je vais vous montrer, en faisant un saut de 100 années, ces images-là ont été prises en 2005, au scanner, le même fragment, nous allons partir de la surface et aller en profondeur d'un fragment et voir les roues dentées qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Je vais vous montrer trois petits films de quelques secondes. Donc vous voyez la roue qui est visible à l'œil nu. Et puis après, vous voyez des petites roues dentées qui sont derrière. Tous les niveaux jusqu'à l'autre côté du fragment. Et puis plus rien. Ça, c'est environ 1,8 cm d'épaisseur. Et il a fallu fabriquer un scanner très puissant pour pouvoir traverser le bronze corrodé dans le sens de la longueur. 400 000 volts, de 250 000 volts à 400 000 volts. Prochaine image, avec un autre capteur des rayons X, c'est le même fragment, c'est des détails. Vous allez voir les détails cette fois-ci. Cette grande roue a 223 dents. Et vous voyez aussi d'autres, pas seulement des roues dentées, mais il y a d'autres éléments mécaniques. Une roue à 63 dents. Alors ces images-là, qui sont en fait des sections, sont très utiles pour les chercheurs parce qu'on peut isoler une section et voir un peu qu'est-ce qui se passe en détail, et puis passer à une autre section, avoir dans l'espace reconstitué la succession des roues dentées et donc de retrouver à peu près tout le train d'engrenage. Mais évidemment, la puissance du scanner, c'est aussi le fait de pouvoir avoir des images en trois dimensions. Donc, vous allez voir en fausse couleur, évidemment. Il tourne là-bas, parce que rien ne tourne ici, un instant. Excusez-moi. Ah, voilà. En faisant varier la puissance de pénétration, nous arrivons à voir à l'intérieur du fragment. Là, vous voyez en trois dimensions ce qu'on avait vu tout à l'heure, plan par plan. Et vous voyez aussi en bas des grandes structures qui ont l'air, ça a l'air d'être des cercles concentriques. Là, sur la gauche, il y a un angle. Ça, c'est un morceau de bois. C'était toutes les plaques de bronze et les engrenages étaient encastrés dans un cadre en bois. Je vais le refaire tourner. Non, excusez-moi, pour que vous puissiez voir de l'autre côté. Donc, il y a une face avant et une face arrière. Là, vous voyez en bas à droite des parties comme ça qui sont concentriques. On en reparlera un peu plus tard. Voilà. Donc, avec tout ça, avec toutes ces images, je ne sais pas si je vais vous convaincu qu'il s'agit d'un calculateur astronomique. C'est un peu court. Voilà, il manque des éléments pour la démonstration. Alors, allons voir un peu, parce que c'est quand même l'aboutissement d'un siècle de recherche. Alors, voilà Albert Rehm et ses photos annotées. Puis, un personnage très intéressant, c'est un amiral en grande tenue d'amiral. Il y a plusieurs officiers de la marine qui se sont occupés de cette machine. Et c'est d'ailleurs pour cela que pendant une soixantaine d'années, on croyait avoir affaire à un astrolabe évolué. Un astrolabe, d'une certaine manière, c'est aussi une machine astronomique, mais qui sert à calculer d'autres choses. Ça, c'était jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a eu, dès le début, deux ou trois archéologues grecs renommés plus Albert Trem qui ont fait le gros du travail. Et puis, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait presque plus rien. J'ai mis quand même Théophanides, l'amiral, parce qu'il a été le premier à essayer de construire un modèle, un vrai modèle, en utilisant des horlogers d'ailleurs, de la machine. Puis, Seconde Guerre mondiale, toutes les antiquités sont enfouies pour échapper au bombardement. La machine disparaît de la circulation et elle refait surface grâce au grand historien des sciences Derek Price, qui commence dans les années 50. Il publie un premier article dans Scientific American en 1959 où il stipule que c'est un calculateur astronomique. Et puis, en 1974, il publie cet article, c'est plus qu'un article, c'est un petit livre, le Gears from the Greek, c'est-à-dire les engrenages venant des Grecs, où le mot est jeté, a calendrical computer, donc une machine à calculer calendaire, comment dirait-on voilà. Venant des Grecs, aux environs de 80 avant Jésus-Christ. Derek Price a eu la chance immense de travailler avec un physicien du centre de recherche nucléaire d'Athènes qui a pris les premières radios, vous en voyez une ici, de la machine. Ils ont donc pu compter très exactement le nombre d'engrenages et le nombre de dents. Alors, ici, je m'arrête quand même sur cette diapositive parce que tout aurait pu arrêter avec Price. Il avait trouvé l'essence de la machine d'Anticythère. C'était une machine à calculer astronomique. Et l'essence, c'est justement ces jeux d'engrenages et le nombre de dents. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de ce cercle de 19 ans et de 235 mois. Quel est le rapport avec les dents des engrenages? Alors, je vais prendre un exemple assez simple. Si j'ai, supposons, par exemple, que ma grande roue, si elle fait un tour complet, c'est une année. C'est le soleil qui revient d'équinoxe en équinoxe de printemps. Si jamais je veux faire bouger la Lune, qui devrait faire donc, pour cette même période, 12 tours et quelques, un peu plus de 12 mois. Ou alors, si la grande roue fait 19 tours, le petit cadran de la Lune devrait faire 235 tours. Donc, de 19 au 235, il devrait y avoir toute une série d'engrenages avec des chiffres très précis. Et or, ces chiffres-là existent. Je vous les montrerai plus tard. L'idée est assez simple. Si j'avais une roue dentée de 100 dents et il y en a une autre à côté de 50, si l'une fait un tour, l'autre fait deux tours. En jouant un peu avec le nombre de dents, on arrive pratiquement à représenter n'importe quelle période. Donc Price a fait ses calculs et il a soumis un modèle, il a même construit un modèle mécanique. Vous voyez sur la gauche un modèle en carton. Il se servait pour montrer la machine au grand public. Et puis, il y a eu au moins deux équipes. Un historien de l'informatique, Alan Bromley, australien, et un mécanicien, un historien de la mécanique, Michael Wright, dans les années 80, qui se sont dit « Price a fait des erreurs ». Et ils ont complètement démonté le modèle de Price, en fait. C'est ce qui fait que notre équipe de recherche arrive en 2005 et, grâce à toutes ces données et à l'utilisation des données, publie deux articles en 2006 et 2008. Alors, la question, c'est pourquoi? Pourquoi nous ne sommes pas arrêtés à Price? Pourquoi Price a été démonté par Michael Wright, Alan Bromley? Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quels sont les nouveaux éléments que nous pouvons apporter à cette histoire du calculateur astronomique? Ici, vous avez deux modèles. Le premier à gauche a été construit par... c'est le modèle de Price, pas construit par Price, mais par un mécanicien, dans les années 80. Et à droite, c'est le modèle de Michael Wright. Je vais vous montrer une grande différence. Quand vous avez vu la rotation en trois dimensions, il y avait ces cercles concentriques. Vous les voyez sur la gauche. Or, sur la droite, ce ne sont plus des cercles concentriques, c'est des spirales. Quand en 2005, dans un congrès à Athènes, nous avons demandé à Michael Reich pourquoi des spirales, il nous a répondu, c'est parce que j'ai fait des mesures sur les radios et j'ai vu que ça ne pouvait pas être des cercles concentriques. Mais je ne sais pas à quoi elles servent. C'était un mystère. De plus, la machine de Price sur la gauche ne fonctionnait pas. Il n'y avait aucune façon de tourner un bouton sur le côté et de faire bouger les aiguilles. Par contre, celle de Michael Wright fonctionnait, mais sans savoir exactement pourquoi. Nous ne savions pas exactement ce qu'il y avait sur les cadrans. Je me propose donc de vous montrer, entre autres, pourquoi ce ne sont pas des cercles concentriques, mais des spirales. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat d'un travail collectif. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait la première fois où une équipe pluridisciplinaire a travaillé sur la machine d'Anticythère. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle une partie des mystères ont été résolus. Tous les autres, jusqu'en 2005, travaillaient en solo. Ils passaient à côté de la vérité et ils la rataient. Il n'y avait personne pour se confronter. Nous avons eu la chance donc de travailler avec deux grandes sociétés, Hewlett-Packard, qui a ramené un appareil à scruter les surfaces, et la société de scanners, qui a amené un scanner de 12 tonnes à Athènes, spécialement construit, donc très puissant, mais aussi avec un rayon très fin pour pouvoir lire les détails et avoir une résolution très grande. Le résultat, c'était, à l'époque, un téraoctet de données. Vous avez ici des tranches, des inscriptions, des détails mécaniques, enfin tout ce que vous voulez. À droite, il y a une drôle d'inscription, la deuxième case à partir du haut. Et vous en verrez plusieurs comme ça. Alors, je vais faire une somme un peu de comment on travaille sur les inscriptions. Parce que la clé du mystère est en fait aussi avec les inscriptions. Ça, c'est une page du carnet de notes d'Albert Rehm. Donc, pour pouvoir lire, je reviens en arrière un peu, pour pouvoir lire les inscriptions, il faut aussi les confronter à ce qui avait été lu auparavant. Parce qu'en fait, vous avez vu les 89 fragments, au début c'était un seul objet. Et il y a eu des phases, on a enlevé tout ce qu'il y avait dessus, donc il y a des choses qui ont changé. Il y a lecture par des photos de haute qualité. Alors, cette inscription-là, je ne sais pas si c'est lisible, mais c'est du grec à l'envers. C'est en miroir, un peu comme Léonard de Vinci. C'est en fait, ce n'est pas la véritable inscription, c'est une empreinte de 2000 ans de sédiments. Il y avait une plaque de bronze gravée, normalement, une autre plaque de bronze, et à l'intérieur, il y avait des sédiments. Une plaque de bronze est partie, elle est perdue, mais il reste l'empreinte. Ce que nous lisons ici, c'est l'empreinte de l'inscription. Et ces lettres ont 1,4 mm de hauteur. La même image, vue en surface par la machine de Hewlett-Packard, et aussi une image provenant de la même inscription, mais un peu à côté, par le scanner. Le résultat, c'est plus de 2500 signes, et nous continuons. Il y en aura environ 3000 sur un total supposé de 10 000 signes initial. Et certaines phrases sont maintenant complètes. Mais surtout, nous arrivons à lire plusieurs chiffres. Certains chiffres, comme le 19, la période de Méton, 76, Calippe, le 223, étaient connus dès 1905. Mais le reste n'avait pas été lu. Et il y a certains chiffres, comme le 265, dont la signification n'est pas encore élucidée. Alors, voici certains exemples d'inscriptions. Ça, c'est la spirale du haut, et tout ce qui est en rouge, c'est des bribes d'inscriptions. En fait, cette spirale-là est divisée en 235 petites cases, et dans chaque case, il y a un nom de moi. Je reviendrai dans une autre diapositive sur le détail de ces mois. À l'intérieur, vous voyez en bas, il y a un petit cadran subsidiaire. À l'intérieur donc du grand cadran, il y a un petit cadran surprenant avec des noms de jeux athlétiques. Nous reviendrons aussi sur ce cadran. Sur la face avant de la machine, il y a une plaque qui ferme le tout et une inscription qui était absolument illisible. À l'époque de Price, les épigraphistes avaient lu environ 20 signes. Nous avons lu maintenant environ 1000 signes. Et cette inscription-là, c'est une inscription purement astronomique et de signification planétaire. Je veux dire, je veux dire par là que le texte a un rapport avec les planètes et les mouvements des planètes. Nous pouvons lire par exemple le nom de Mars, de Vénus et de Mercure, et certains mots-clés comme le mouvement rétrograde et le point stationnaire. Si vous observez les mouvements des planètes sur le fond des étoiles fixes tous les jours, vous verrez qu'à un certain moment, le mouvement apparent semble s'arrêter et les planètes repartent en arrière. Nous voyons une description de ce mouvement dans ce texte, et ce texte-là est rédigé presque entièrement à l'impératif et semble être un genre de manuel de l'utilisateur, des ordres donnés à l'utilisateur pour pouvoir calculer à l'aide de la machine certains phénomènes. Une autre inscription a une signification plus mécanique. Ici, nous lisons, Helicis et l'hélice, c'est en fait la spirale, et après il y a écrit section sigma lambda epsilon. Donc en toutes lettres, spirale à 235 sections. Les lettres, les mots qu'il y a après sont des mots provenant d'un vocabulaire purement mécanique que l'on retrouve chez Héron d'Alexandrie, et seulement chez Héron d'Alexandrie. Voilà l'inscription transcrite par le philologue de l'équipe, et nous voyons aussi la deuxième ligne, par exemple, c'est il faut retrancher 20 jours. Ça, c'est une indication pour la nature du calendrier. C'est un peu comme le 28 et le 29 février et les années bissextiles. Voilà un autre fragment, tout petit, il fait cette taille, et sur ce fragment, il y a les trois chiffres très importants, le 19, le 76 et le 223. Alors, tout ceci, vous allez voir un plan. Alors, vous voyez, ça c'est la plaque avant avec l'inscription astronomique. Je récapitule en vous montrant la place de toutes ces inscriptions. Et puis, il y a en haut et en bas de la face avant, il y a un almanach astronomique avec toute une série de phénomènes stables d'année en année, comme par exemple les premiers levers héliaques de certaines étoiles ou les couchers et ainsi de suite. La vie et certains fêtes religieuses étaient rythmées par l'apparition et la disparition des étoiles à l'horizon. Par exemple, les agriculteurs jusqu'à nos jours savent, par exemple, qu'il faut aller planter certaines variétés quand on voit pour la première fois Sirius. C'est un exemple comme d'autres. Et ici, sur la machine, nous avons ces points de repère fixes. Voilà, c'est les deux parties. Au centre, de la machine, il y a deux grands cercles concentriques. Un cercle qui est divisé en 360, c'est un calendrier solaire égyptien. Alors pourquoi égyptien ? C'est tout simplement le monde hellénistique avec les grands astronomes d'Alexandrie. Et c'était le calendrier qui était utilisé par les astronomes, le calendrier solaire. Les noms des mois sont des noms égyptiens transcrits en grec et ils sont utilisés, ils sont repris par Ptolémée plusieurs siècles après et utilisés pendant des siècles dans la littérature jusqu'à en fait, l'avènement du nouveau système du monde. Concentrique avec le calendrier égyptien, il y a le zodiaque, les 12 signes du zodiaque. Alors de l'autre côté, sur la face arrière de la machine, il y a les deux spirales avec le calendrier de Méton, le calendrier de l'Olympiade et les symboles des éclipses. Et puis il y a un texte qui n'avait pas été publié, je pense qu'il pourrait être publié dans un an ou deux, qui est assez étrange et qui pourrait avoir un rapport avec le cadran qui est juste à côté. Puis le tout est fermé par une plaque, celle où il y a l'inscription sur la spirale à 235 divisions et plusieurs termes mécaniques. C'était un texte assez grand, comme vous pouvez voir, mais il n'en reste que très peu. Voilà, c'est tout pour les inscriptions. Et voilà les fonctions de la machine. Les deux calendriers, donc à gauche, le calendrier solaire égyptien, et à droite, le calendrier civil, le calendrier de Méton avec le cycle des 19 ans. Le soleil et la lune qui tournent autour du zodiaque et du calendrier solaire. La lune, nous la verrons en détail juste après. Il y a aussi les phases de la lune. De l'autre côté, l'Olympiade, les éclipses, le parapegme et les cinq planètes qui tournaient très probablement de la même façon que le soleil, c'est-à-dire qu'il y a aussi des aiguilles qui tournent tout autour du zodiaque. Alors, voyons maintenant en détail certaines de ces fonctions. Ici, c'est tout le système d'engrenage reconstitué avec les 30 roues dentées qui se trouvent actuellement dans le musée, plus certaines hypothétiques qui sont nécessaires pour faire tourner la machine. Alors, vous voyez sur la gauche le mot « input ». Excusez-moi. Le mot « input », c'est donc la manivelle. Vous faites tourner la manivelle. Il y a la grande roue dentée qui tourne et solidairement, tout le reste entraîne les différentes aiguilles dans les cadrans de la face avant et la face arrière. L'idée, c'est donc, en faisant tourner la manivelle, de se placer sur une date donnée, très probablement du calendrier solaire, mais aussi peut-être du calendrier civil, et puis de voir les phénomènes astronomiques qui sont associés à cette date. Je vais vous montrer un peu comment ça tourne à l'intérieur par une reconstitution. Ça ne tourne pas constamment, évidemment. On peut s'arrêter où l'on veut. Mais voilà la manivelle. Voilà la face arrière avec le grand cadran avec les 235 mois. Et vous voyez la lune qui tourne tout autour, qui est parfois blanche et parfois noire. Alors, passons voir un peu en détail ce mécanisme de la Lune. Cette petite boule qui tourne autour d'elle-même, quand elle nous présente sa face noire, c'est en fait la nouvelle Lune. Et après un demi-cercle, c'est le côté blanc, c'est la pleine Lune. C'est donc un système pour montrer les phases de la Lune. Et l'évidence pour ça, c'est le fragment C de mécanisme que vous pouvez voir au musée à Athènes avec l'emplacement de la boule et tout le train d'engrenage qui existe, qui faisait bouger, qui faisait tourner la boule de la Lune. Mais ce qui est étonnant, c'est tout le système sous-jacent d'engrenage et une des roues dentées à 54 dents qui possède un tout petit... c'est comme un défaut de construction, mais ce n'est pas un défaut de construction. Ce trou, enfin cette fente. Alors cette fente, c'est en fait, c'est là où passe un axe d'un système épicyclique. Alors les épicycles, c'est quelque chose qui tourne sur un centre qui lui-même tourne. Et vous voyez à droite, à partir du carnet de notes d'Albert Rehm, épicycle en allemand, il avait imaginé que si cette machine était un planétarium, il devrait y avoir un système épicyclique pour pouvoir représenter les mouvements des planètes, entre autres le mouvement rétrograde. Et c'est vrai, ce système épicyclique existe, nous avons pu le voir grâce au scanner. De l'autre côté, il y a donc le calendrier de Méton avec les 19 ans et les 235 mois, et là je vais vous répondre à la question que j'avais formulée tout à l'heure, pourquoi une spirale ? Alors pour comprendre pourquoi il y a une spirale et pour voir exactement le fonctionnement de la machine, nous allons voir sous un autre angle, voilà, la spirale. Alors, il y a un sillon, et dans le sillon, il y a quelque chose de coincé dans le sillon. Je ne sais pas si vous voyez là le cercle rouge. Alors sur un autre plan, le scanner nous donne la possibilité de voir en trois dimensions, mais aussi de prendre n'importe quel plan, hein, soit le plan XY, soit YZ, et ainsi de suite. Donc le même, ce qui est au centre du cercle rouge, c'est ce que vous voyez à droite, sous un autre plan, et la reconstruction par ordinateur nous donne ceci. Alors ceci, c'est en fait, mais c'est exactement comme les tourne-disques, des anciens disques, micro-sillons donc, avec une aiguille qui pénètre dans le sillon et qui suit le parcours du sillon. Donc ce système-là, vous avez vu tourner tout à l'heure, tout autour du cadran, il suivait le sillon du centre jusqu'à la périphérie et servait à noter très exactement le mois sur lequel se trouvait le pointeur. Le même système existait sur la spirale du bas. La spirale du haut, c'est le calendrier de Méton, 19 ans et 235 petites cases. Et la spirale du bas, vous allez voir, ça c'est un tout petit fragment, qui provient du coin en bas à droite de la machine, et vous allez voir au scanner ce que ça donne. Donc, nous pénétrons à l'intérieur et nous découvrons, sous la couche donc, de sédiments marins, un morceau de spirale, des inscriptions à droite, c'est celles qui n'ont pas encore été publiées, et dans les petites cases, certaines inscriptions, mais pas dans toutes les cases. Pour comprendre le rôle de ces inscriptions, il faut aller voir dans l'autre fragment, le grand fragment avec la croix, mais de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a écrit fragment A2. Le côté A1, c'est le côté que tout le monde connaît, celui que je vous ai montré au début. Vous pouvez voir ça à l'œil nu au musée à Athènes. En gros plan, vous retrouvez les sections de la même spirale. Et là, en rose, c'est là où il y a des inscriptions. Dans le reste des cases, il n'y a pas d'inscriptions. Ce n'est pas des inscriptions qui ont été perdues, il n'y en avait pas. Alors, ces inscriptions sont de cette forme. Et vous les voyez ici, comme elles sont en surface, ce n'est pas, ce que vous voyez sur la gauche, ce n'est pas une image de scanner, mais c'est une image du système Hewlett-Packard. Nous pouvons faire l'inventaire de toutes ces inscriptions. La partie droite est la seule subsistante, le reste est peut-être au fond de la mer à Antécitère. Et voilà où il y a des inscriptions. Nous les numérotons en partant du 1 jusqu'au grand maximum, c'est 223, parce que cette spirale est divisée en 223 cases. Alors, voici les inscriptions que nous pouvons lire. On fait un peu de graphisme. Voilà les lettres pures. Et essayons de comprendre un peu la signification de ces symboles, car il s'agit de symboles répétitifs. Alors, tout simplement, en rigolant un peu, parce que c'est tout simplement après un siècle, nous nous rendons compte de l'évidence. C'est l'œuf de Colombe. Hein, c'est Sigma, c'est Séléné, la lune. Le Ita, c'est Ilios, le soleil. Et puis, vous avez un drôle de symbole qui est un peu comme une encre, qui est en fait un oméga avec un rho. C'est le symbole pour aura, l'heure. Et il y a un nombre à côté, toujours associé. Là, il y a θ, donc 9. Et finalement, il y a aussi, vous voyez, le ita et un mu au-dessus. Ça, c'est le symbole pour imera, la journée. Et il y a aussi un nu ypsilon qui est nuctos, qui est la nuit. Donc, devant le soleil, la lune, le jour, la nuit et une heure. Tout ça, c'est une description très précise d'une éclipse. Donc, quand notre micro-sillon avec la pointe coulissante se trouve sur une case avec une inscription, nous savons qu'il y a une éclipse. Et nous savons si c'est une éclipse de soleil ou et de lune, si elle se produit pendant la journée et pendant la nuit, et à quelle heure elle va se produire. C'est ce que nous dit la machine. Voilà le cadran reconstitué. Alors, comment ça fonctionne? Plus précisément, je vais vous le dire dans une seconde. Voilà le cadran reconstitué par ordinateur. Et là, il va falloir s'accrocher un peu. Parce que vous voyez, il y a un cadran subsidiaire que je n'avais pas mentionné auparavant. Divisé en 3. Et sur un tiers, il n'y a rien. Sur le second tiers, il y a un ita, qui est très probablement le 8. Et sur le troisième tiers, il y a un iota stigma, qui veut dire 16. Alors, que viennent faire le 8, le 16 et le nul? Enfin, pas le 0. Pour cela, il faut revenir un peu en arrière, jusqu'aux Babyloniens, et voir un peu comment les Babyloniens prévoyaient les éclipses basées sur le cycle qui a été nommé le cycle de Saros et qui est utilisé encore de nos jours par les astronomes amateurs. Les Babyloniens avaient, après des années d'observation très longues, sur les tablettes d'argile, vu qu'il y a une périodicité dans les éclipses. Et cette périodicité, de première vue, elle est de 223 mois, ou de 18 ans. C'est-à-dire que s'il y a aujourd'hui une éclipse, nous sommes certains qu'il y aura une autre éclipse après 223 mois lunaires. Quand je dis mois, c'est toujours les mois lunaires. Mais cette éclipse après 223 mois, peut-être qu'on ne la verra pas, parce qu'en fait, elle n'a pas lieu au même endroit, mais elle a lieu 120 degrés plus loin, ou, en termes de rotation terrestre, terme moderne, 8 heures après. Mais après 8 heures, après donc 223 mois plus 8 heures de plus, ça ferait 16 heures. Et après un troisième cycle de Saros, on boucle, ça fait 8 et 8 et 8, 24, donc on retombe au même endroit. Et de fait, ce cycle de 3 fois 223 mois, 669 mois, ou 54 ans, c'est le cycle appelé de l'exéligmos, c'est trois cycles de Saros, et les éclipses retombent à peu près au même point. Donc, l'utilisateur de la machine, s'il a la chance de tomber sur une éclipse, ce qu'il fait tout de suite, c'est de voir s'il se trouve sur le premier tiers. S'il est sur le premier tiers, il lit l'inscription directement, là en bas sur l'image, avec l'heure, par exemple, la 9e heure de la journée. Mais si jamais la grande aiguille a fait un tour complet, la petite avance d'un tiers. Tout cela existe avec des engrenages sous-achants. Donc, il faudra, nous dit le constructeur, ajouter 8 heures à l'heure prévue. Et après encore un cycle de Saros, il faudra ajouter 16 heures. Et nous reviendrons à 0 heure, donc à l'inscription de base, après 54 ans ou 669. Moi. Ceci, c'est le fonctionnement supposé de ce système. En haut, il y a le calendrier civil d'une cité grec de l'époque, plus le calendrier des jeux athlétiques. Alors, ici, vous voyez, l'inscription est remplie. Mais en fait, il n'y a que très peu de ces lettres qui sont sauvées. Mais simplement, comme c'est un calendrier répétitif, il y a 19 ans, donc 19 fois 12 mois, on retrouve les mots de mois un peu partout, exactement aux endroits où Saint-André a les retrouvés. C'est ce qui nous a permis de reconstituer la totalité de ce calendrier. Et c'est très rare d'avoir 12 mois, la totalité d'un calendrier d'une cité grecque. À part Athènes, le reste des calendriers, chaque cité avait son propre calendrier. Le reste donc des cités, on n'a que 2 ou 3 mois par-ci, 6 ou 7 mois par-là, et même pas dans le bon ordre, parce qu'il y a des mois qui ne correspondent pas exactement à la même époque. Par exemple, le mois d'Apollon, à Péléos, peut être en été pour une cité, mais ça pourrait être à l'automne pour une autre cité. Ici, nous avons les 12 mois avec un ordre précis, et comme c'est un système qui tourne, on connaît très précisément la séquence. C'est rare, et ça peut aider à tracer l'origine de la machine ou les utilisateurs de la machine. Le calendrier intérieur, c'est un calendrier qui n'a strictement aucune importance astronomique. C'est une aiguille qui tourne à une période de 4 ans, qui est en fait la période de l'Olympiade. L'Olympiade étant la période qui va de Jeux Olympiques à Jeux Olympiques. Et pas seulement, on voit ici le mot Olympia, vous le voyez, la pointe, ça pointe vers deux mots, Isthmia, qui sont les jeux isthmiques de Corinthe, et les jeux d'Olympie, les jeux olympiques. Il y a aussi les jeux de Némée, les jeux pythiques à Delphes, de l'autre côté. Les jeux de Némée, c'était tous les 2 ans, donc vous avez 2 fois l'inscription, et aussi tout en haut à droite, 3 lettres, les jeux Naa, ça c'est les jeux, c'est très étrange, c'est les jeux du Zeus naïen à Dodone, qui est en Épire, donc en Grèce du Nord-Ouest. Donc ce petit calendrier n'a pas une signification astronomique, mais comme nous savons, les jeux rythmaient les activités humaines et étaient très souvent dans les textes utilisés pour des notations, pour noter les événements historiques. Alors, voilà les deux spirales de la face arrière. Et la question, en faisant un bond de quelques siècles, ça c'est l'horloge astronomique de Prague. C'est donc une imposture ici, parce que, bon, ça ressemble. L'idée est la même, c'est à l'horloge astronomique qu'il y a des phénomènes astronomiques qui sont représentés. Mais c'est un hasard, évidemment, le fait d'avoir 2 cadrans comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, apparemment, nous n'avons pas de machine tellement complexe pendant 12 siècles et même peut-être plus? Est-ce une connaissance qui a été perdue? Voilà certains exemples de mécanismes. À gauche, vous avez l'odomètre d'Héron. C'était une machine à mesurer les distances, reconstruite il y a quelques années en Grèce. Vous voyez les roues dentées à l'intérieur. Cette machine aurait pu être de l'époque de la machine d'Antécitère, donc de la fin du second siècle avant notre ère. Au centre, il y a la reconstitution d'un calendrier lunisolaire byzantin qui se trouve au Science Museum à Londres. À droite, vous voyez l'horloge de Dondi et sa reconstitution, qui est l'observatoire. Et à gauche, un astrarium, un mini-planétarium. Toutes les 3 images que je viens de citer sont à partir du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et ces objets étaient très en vogue pendant des siècles. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avant et entre Antécitère et ceci? Et surtout, Antécitère, la machine Antécitère, comment apparaît-elle tout d'un coup aux environs de 100, 150 avant notre ère? Très récemment, il y a eu la découverte au musée d'Olbia en Sardaigne d'une seule roue dentée datant d'environ 200 avant notre ère. C'est un indice qu'il y avait des mécanismes à roue dentée avant la machine denticitaire. La machine denticitaire, comme vous avez vu, est très complexe. Et donc, elle doit provenir d'une tradition beaucoup plus longue, de quelques générations au moins. Alors, ici, j'ai mis sur cette diapositive certains noms. Vous voyez Eudox et les épicycles. Vous voyez Calippe avec le calendrier calippique. Et vous voyez Hipparque. Alors, Hipparque est quelqu'un de très important. Le grand astronome grec avant Ptolémée. Et c'est très important parce que une des théories qui sont attribuées à Hipparque, c'est-à-dire le mouvement de la Lune, l'anomalie de la Lune, se trouve dans le mécanisme denticitaire, est représentée par le mécanisme denticitaire. Ce que vous avez montré tout à l'heure avec le système épicyclique, fonctionne de manière à représenter la vitesse variable du mouvement de la Lune vue de la Terre. Ce qu'en termes modernes, nous pourrions dire, c'est la deuxième loi de Kepler, mais évidemment, à l'époque, il s'agissait de sauver les phénomènes, donc d'essayer de trouver un modèle qui représente ce que nous voyons, nous observons. Si vous tournez le bouton, la manivelle de la machine à vitesse constante, la Lune, elle, ne tourne pas à vitesse constante. Elle ralentit et elle accélère. Cette théorie avait été supposée provenir d'Hipparque et nous la voyons mise en œuvre dans la machine denticitaire. Juste en dessous d'Hipparque, quelqu'un qui a vécu dans la même région, du côté de Rhodes et de l'Asie mineure, qui était un ingénieur de génie, Posidonios. Puis, plus tard, vous voyez, le naufrage, c'est quelques décennies plus tard. Héron d'Alexandrie, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il a vécu. Mais il y a Géminos, qui fait une somme de toutes les connaissances astronomiques pour le grand public de l'époque. Et en lisant donc l'introduction au phénomène, le livre de Géminos, on a l'impression de voir une description de la machine, des théories qui sont dans la machine denticitaire. Nous pourrons revenir en discutant là, tout à l'heure sur cette diapositive. Et nous discutons un peu aussi, vous voyez où a été trouvée l'épave. C'est sur la route de l'est vers l'ouest. Et vers l'ouest, il y avait aussi Archimède. Alors, Archimède, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Archimède était aussi un ingénieur de génie. Et on sait qu'il fabriquait, on le lit dans Cicéron, il fabriquait des sphères. Et alors, les sphères, c'était la représentation du cosmos, la sphéropée. Or, je vous ai dit qu'il y avait un calendrier, le calendrier civil, qui provient d'une cité grecque. En reconstituant ce calendrier, nous avons eu la surprise de voir qu'il coïncidait très exactement avec les 7 mois qui sont parvenus jusqu'à nos jours du calendrier de Tauroménion, c'est l'actuel Taormina en Sicile, qui est une ville fondée par les colons de Syracuse. Il y a donc un indice qui nous fait dire que peut-être celui qui a construit la machine ou qui l'a utilisée provenait de cette partie du monde hellénique. La présence aussi des jeux de Dodone qui sont dans la même zone de l'hellénisme occidental fait peser la balance du côté ouest. Mais la question n'est pas résolue, mais pas du tout. Donc, je la laisse en suspens, nous pouvons en discuter. Il n'y a pas d'autres indications, à part les inscriptions, sur la provenance. Le fait que la machine était dans un navire nous a fait dire à certains que c'était un instrument de navigation. Mais c'est très difficile, avec ces fonctions que je vous ai décrites, d'utiliser la machine pour faire le point. La latitude, je veux bien, mais la longitude, c'est impossible. Ce n'est pas assez précis, il y a un tas de problèmes qui ont été résolus après. Mais peut-être que si la machine ne faisait pas partie de la cargaison du navire, donc des statues, des verreries, enfin de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, elle est peut-être provenue des côtes d'Asie mineure, peut-être aussi de Pergame, parce que nous trouvons des monnaies de Pergame dans le cargo, Pergame avait été mise à sac à peu près à la même époque. Mais si jamais la machine était déjà dans le navire, elle provient peut-être du monde de l'Ouest. Personne ne sait. Alors, par contre, nous pouvons commencer à imaginer les applications de la machine. Maintenant que nous connaissons ou croyons savoir les fonctions précises de la machine, à quoi était-elle utilisée, dans quel cadre, dans un cadre, pourrait-on dire, scientifique, dans un cadre divinatoire, c'était un objet de luxe pour épater les visiteurs. Donc, d'où le reste-t-il des indices, ce que je disais tout à l'heure, ça c'est lever de soleil sur le site du naufrage. Et je passe donc à la dernière question. Alors, la dernière question, c'est... Ça, c'est mon passeport. La Grèce fera-t-elle faillite? Ça n'a rien à voir, hein, c'est l'actualité. Mais si jamais on pouvait utiliser ce mécanisme à des fins astrologiques, pourquoi pas? Ce que font les astrologues, c'est ils nous donnent les positions des planètes, de la Lune, etc. Et après, ils cogitent un peu et ils prévoient le futur. Alors, pourquoi ne pas faire ça avec la machine d'Anticythère? Là, je dis ça un peu pour provoquer la discussion. Et encore une dernière diapositive provocatrice, c'est le New York Times de 2008. Donc, vous voyez, les Américains, ils ont sauté sur l'occasion. En 2008, c'était l'année olympique. Il y a eu le cadran olympique, hop, en première page. Alors, voilà. Je laisse en suspens plusieurs questions et je suis là pour, je vous remercie, pour répondre à des questions éventuelles.
On a un petit peu de temps avant d'évacuer la salle, hein, parce que ça a pratiquement respecté.
Une autre question provocatrice. L'histoire des extraterrestres. Mais non, c'est sérieux. Parce que cette machine, qui a fait donc surface en 1900, a sombré dans l'oubli plusieurs fois. Et la dernière fois où elle a sombré dans l'oubli, c'était après la publication du livre de Price. Et une des raisons, c'est qu'il y a un Suisse-Allemand très connu, Erich von Däniken, qui a sorti un livre sur les extraterrestres qui ont fabriqué à propos de tout ce qui existe de mystérieux sur la Terre, dont la machine d'Anticythère. L'île de Pâques, les aéroports mayas, vous connaissez peut-être les livres d'Erich von Däniken. Donc la machine d'Anticythère, dans la communauté de l'histoire des sciences, elle avait quand même une réputation assez sulfureuse de machine hors du commun, hors du contexte, et qui provenait peut-être d'une civilisation extraterrestre qui écrivait en grec. Alors, oui.
Vous avez parlé là, tout à l'heure des antécédents éventuels, parce que ce qui est le plus surprenant de cette affaire, c'est que ça surgisse d'un coup un mécanisme aussi perfectionné. Qu'est-ce qu'on a comme hypothèse, à part le petit fragment de sur d'éventuels mécanismes moins compliqués, mais qui auraient existé avant,
oui,
qui auraient progressivement permis l'apparition d'un système aussi compliqué.
Il y a plusieurs exemples, et dans les textes, de mécanismes à roues dentées, des grandes roues dentées en bois, tous les appareillages, les catapultes et d'autres systèmes. Il y a des descriptions très précises des Aristote et les pseudo-Aristote sur la manière de transmettre le mouvement via les roues rugueuses. Donc c'est un peu l'ancêtre des roues dentées. Mais nulle part on ne trouve d'application à l'astronomie. C'est ce qui est surprenant dans cette machine. Ce n'est ni la technique utilisée, ni l'astronomie, mais c'est les deux qui sont mis ensemble. Les connaissances astronomiques concordent exactement avec ce qu'on le connaît de la science hellénistique. Les connaissances techniques pour fabriquer, donc par exemple pour graver des lettres de 1,2 mm de hauteur, faisable. Il y a des bijoux qui sont autrement plus ouvragés que la machine denticitaire. Les roues dentées, on connaissait ça. Mais on n'a aucun exemple, je crois même dans la littérature, de description de roues dentées pour transmettre des périodes astronomiques. Par contre, nous avons des descriptions de représentations du ciel. Je veux dire avant Ptolémée et les sphères Ptolémée. C'est chez Cicéron, nous pouvons lire une description de machines qui semblent être les cousines de la machine denticitaire. Ouh, j'ai ça dans l'ordinateur, je vais vous le donner là. Oui, c'est pour ça, oui. Oui. Et Cicéron dit, notre ami Posidonius a fabriqué une machine remarquable. Oui. Et c'est d'ailleurs pour cela que longtemps, Posidonius est même encore maintenant, est quand même le numéro un sur la liste des constructeurs potentiels de la machine.
Est-ce qu'il y aurait un critère pour ne pas ranger cette machine dans la famille des astrolabes?
Ah. Alors, un critère, ça serait la complexité. Les astrolabes ont très peu de roues dentées. Oui, mais aussi, c'est surtout, pour un astrolabe, il s'agit d'avoir donc sur le fond les étoiles fixes pour pouvoir se positionner. Ici, il s'agit de représenter les cycles astronomiques qui régissent un peu toutes les activités humaines et la nature. En fait, il y a le centre de la machine, c'est les 19 ans. Hein, c'est le soleil et la lune, les rendez-vous de la soleil et la lune. C'est comme le... C'est qui ça dans Tintin? C'est dans le temple du soleil, non? Le soleil a rendez-vous avec la lune. Ça, c'est le noyau du système de la machine denticitaire. C'est quand est-ce que le soleil a rendez-vous avec la lune? Et à partir de ce cycle de base de 19 ans et de tous les dérivés, dont le cycle de Saros, donc le cycle de 18 ans des éclipses, toute la machine est construite avec une addition probable des planètes. Donc là, on a tout, entre parenthèses. Le Soleil et la Lune étaient aussi considérés comme des planètes par les anciens. Donc, au total, nous avons à l'époque d'Anticitaire 7 planètes. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Je pense que ça se démarque quand même de l'idée de l'astrolabe.
De penser
Mais juste, excusez-moi un instant, juste une note. Le mot astrolabe a changé de sens. C'est-à-dire, ce qu'on connaît de l'astrolabe, nous, c'est la signification de l'astrolabe, disons, arabe. Mais chez Ptolémée, astrolabe a un sens différent. C'est autre. C'est, vous voulez ajouter?
Non. Je pensais qu'on pourrait dire que l'astrolabe est peut-être du côté des modèles, des représentations, d'une astronomie des sphères.
Sur le plan, c'est une projection.
Éventuellement projetée.
Projetée, oui.
Projetée, mais on a des astrolabes.
Oui. D'accord.
Et un astrolabe, on a, alors là, c'est intéressant, c'est un vrai débat de fond, on a une astronomie, ce cercle et les ellipses.
D'accord.
Et ce qui est deux tendances, peut-être très importantes, finalement, l'astronomie antique, peut-être que là, on a un dispositif qui est le doxien, quoi. Le doxien, il partient dans l'esprit.
Oui. Il intègre donc Eudox pour les. Et par, donc pour les mouvements de la Lune et des planètes, sans avancer, évidemment, on est à mi-chemin jusqu'à Ptolémée, c'est ça. Hein. Et c'est donc très exactement une représentation du monde en cette fin de l'époque, hein, avec le début des Romains. Et oui, j'ai dit ça.
Ça a l'air d'être très, tout à fait, de fonctionner bien, de supporter bien cette interprétation.
Ça a quand même un côté pratique, ça
j'ai trouvé,
oui.
Résoudre des problèmes, une date, etc.
Ah, quand vous dites, c'est ça, représentation, pas au niveau comme si on avait une sphère, qui elle est une représentation, d'accord. Je voulais dire, donc je n'étais peut-être pas assez précis, par représentation, l'idée des cycles qui rythment toutes les activités humaines. Il y a donc l'idée de prévoir dans la machine et de revenir en arrière aussi. Mais bon, ceci n'est peut-être pas tellement important. Je peux répondre par non hein, à tout ça. Oui. Alors, oui. Alors, où est-ce que le bateau allait? Ah, ça c'est assez facile parce qu'il a été suggéré que ce bateau allait vers un triomphe à Rome, chargé de mise à sac de Pergame entre autres. C'est très probable. Maintenant, qui s'en servait? Moi, je peux vous dire déjà avec ce qu'on a. Des inscriptions. Et d'ailleurs, les inscriptions, vous pouvez les consulter en ligne aussi. Le texte a l'air très sérieux. C'est un traité d'astronomie avec tout ce qu'il faut de mécanique pour expliquer comment ça marche dans la machine. Donc, certains de nos collègues ont suggéré que c'était une... comme s'il pourrait avoir aussi ici une machine de... comment on dit là? Excusez-moi, là, pour montrer les théories. Oui, enfin, ça a été suggéré. Parce que nulle part, on ne peut déceler un écart de la littérature classique astronomique que l'on a dans les autres sources. Mais... certainement, ça devrait être quelque chose de très cher à construire, et d'autant plus qu'il ne devait pas être à son coup d'essai, celui qui a fait ça. Donc, ça ne pouvait être détenu que par quelqu'un de très riche, non ? On imagine assez difficilement quand même, je ne sais pas, moi, un philosophe qui a sa petite machine et fait ses cours avec... Je crois que c'est un peu un anachronisme. Mais quelqu'un de très riche qui passe la commande, peut-être aussi pour faire des prévisions astrologiques, c'est pour ça que j'ai fait ma petite provocation à la fin. C'est une hypothèse qui a été avancée plusieurs fois et qui revient en force les dernières années avec les explications des fonctions de la machine. Oui ? C'est parce que c'est... Alors déjà, on ne savait pas exactement comment ça marchait. On avait une idée vague. Et ça ne, cette machine ne colle pas avec l'idée qu'on se fait du rapport de la Grèce ancienne à la, disons, à la technologie. Ça n'entre pas dans un récit cohérent, n'est-ce pas ? Et ça dérangeait, ou alors... Donc si vous voyez un peu, vous faites une revue de tous les manuels d'histoire des sciences et des techniques parus dans... Il y a parfois des notes sur la machine anticitaire. Après Price, dans les années 70-80, on la retrouve, mais ce n'est pas d'une manière systématique. Et il n'y a pas de suite. C'est simplement d'habitude, c'est des notes en bas de page. Oui ?
Peut-être que vous l'avez dit aussi, mais ça va peut-être être fait. Est-ce qu'elle est exposée depuis quand au Musée national d'Athènes ?
Ah.
Elle a été exposée en permanence ?
Non, elle n'a pas été exposée en permanence. Il y a eu des périodes de disparition, parce que justement, ça rejoint un peu.
Oui.
Non, pas seulement la guerre. La guerre, il n'y avait rien. Mais même dans les années 60-70, elle n'y était pas, la machine. Parce qu'en fait, les archéologues, jusqu'à très récemment, ne s'intéressaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cette machine ? Il y a tellement de statues. Je ne suis pas ironique, là. C'est une réalité. Et... Donc, d'un côté, cette tradition a rejoint le désintéressement de la communauté des historiens des sciences, n'est-ce pas ? Ce n'est que très récemment qu'il y a un regain d'intérêt, parce que là, en fait, maintenant, on sait comment ça marche. On a 5 fonctions, on a pu construire des modèles qui fonctionnent vraiment, et je pense que dans quelques années, on pourrait même, à la limite, avoir un mécanisme d'anticitaire en plastique. Les collègues anglais appellent ça le plastiquifera mécanisme, et avec un vrai manuel d'utilisateur pour les enfants de, je sais pas moi, de 15 à 18 ans, prévoyez une éclipse. Sans blague, l'équipe de recherche a été approchée par Mattel. Oui. Alors, on leur a dit. Bon. Oui, non, parce qu'en 99, il y a un séisme à Athènes, et du coup, après le séisme, il y a la moitié des objets du musée qui passent à la trappe en attendant la reconstruction et des différentes salles. Et le musée rouvre dans sa totalité en 2005, en fait. Il y a un râleur... Feynman, qui vient à Athènes dans les années 60 et qui demande à voir la machine anticitaire, on lui dit « Qu'est-ce que vous voulez voir ? Ça n'a aucun intérêt. » Et c'est consigné dans un des livres de Feynman. Oui. Oui.
Effectivement, personnellement, je n'aurais jamais cru que ça puisse exister dès l'Antiquité, une machine de ce degré de miniaturisation, de sophistication. Pascal, avec sa machine à calculer, ça fait petit jour.
C'est pas mal non plus, quand même, Pascal.
Ah oui.
Oui. Mais pourquoi ? Moi, je vais poser aussi des questions là pour provocatrice. Pourquoi Pascal, il avait plus de... Qu'est-ce qualitativement est différent à l'époque de Pascal? C'est-à-dire l'idée de faire des calculs grâce à des jeux d'engrenage. Ce qui nous étonne, c'est quoi? C'est que quelqu'un a eu l'idée 2000 ans avant. Ah. D'accord. Ça, c'est très important. Oui. Oui. Mais attention, nous ne sommes pas sûrs que ça marchait bien. Hein, attention. Nous, oui. Ah, oui, mais ça, j'avais gardé ça pour la fin, ça tombe bien. Oui. Ah oui, et il y a des traces de panne, en fait. On sait qu'il y a des choses qui ont cassé, qui ont été refaites. Et c'est une des raisons pour, pas avancer, hein, reculer la date loin avant le naufrage, c'est qu'elle a longtemps servi la machine. Et alors, nous savons que s'il y avait eu des plans, hein, que les plans étaient bons, mais la réalisation, ce n'était pas évident. Et ce n'est pas sûr qu'il n'y avait pas, c'est certain qu'il y avait des jeux hein, dans les roues et que la précision n'était pas au rendez-vous. Il y a des calculs qui sont faits actuellement par nos collègues pour pour essayer de trouver l'ordre de grandeur de la précision de la machine sur des exemples précis de calculs astronomiques. Mais par contre, c'est d'autant plus intéressant que si jamais ils n'avaient pas les matériaux, par exemple le bronze, c'est un alliage cuivre-étain, et selon les pourcentages, vous avez les alliages qui sont plus ou moins durs. Il y a actuellement des mesures qui sont faites sur les différents fragments et on voit que là où, par exemple, il y a des inscriptions, il y a un alliage mou. Et pour les roues dentées, évidemment, l'alliage doit être plus dur. Mais était-il assez dur pour tenir le coup? Apparemment, non. Mais c'est d'autant plus... Donc l'acharnement pour construire une machine pareille est d'autant plus remarquable. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils avaient l'idée, là, on va jouer avec Platon, hein, d'une machine idéale, et la machine réelle n'était peut-être pas tellement précise. Oui. Des horloges, mais pas avec le système roue dentée et sans système pour donner le mouvement et l'entretenir. Et ça, c'est une grande question. Quel est le rapport entre ce genre de machine et les horloges qui apparaissent beaucoup plus tard? Y a-t-il eu une tradition de bouche à oreille non écrite des techniciens qui souvent n'écrivaient pas, hein, le plus souvent même. Il y avait des techniques qui restaient secrètes. C'est peut-être une des raisons qui ça avait été avancé dans un congrès à Athènes par le médiéviste Emmanuel Poole, qui est convaincu que les horloges astronomiques médiévales sont les filles d'Anticythère et qu'il y a un lien souterrain qui n'a pas été rompu, mais dont il ne reste pas de traces, mais seulement indirectes, entre Anticythère et les systèmes médiévaux, les horloges et tout ça.
Est-ce que chez Emmanuel Poole, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il faisait référence à des possibilités ou des héritages qui seraient certes, mais de l'ordre de la technique ou de l'ordre des modèles théoriques? Parce que ça, c'est la thèse de Poole.
Oui.
Justement,
oui. Oui, 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 oui. C'est ça. Et il n'y a pas de trace. Oui. Oui. Oui, mais ça reste à ouais. Montrer. Oui. Oui, mais c'est beau quand même une horloge astronomique. Et ça fait du bruit aussi. Mais je veux dire, par contre, ça, vous voyez, il ne reste plus rien. Quand vous arrivez dans le musée à Athènes, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un caillou? C'est rien. Il faut connaître l'histoire pour.
Vous pouvez montrer la taille de la machine.
C'est ça, oui. Hauteur, ça de largeur et ça environ de profondeur. Il y a les plaques successives. C'est très miniaturisé, oui.
La machine à vapeur de Héron, qu'on attribue à Héron d'Alexandrie, ça c'est une des rares choses qui permet de faire la technique de l'antiquité, le machinisme de l'antiquité. Ce qui tournait parce qu'il y avait. On faisait chauffer de l'eau dans une espèce de.
Oui, et la cloche, oui.
L'origine en sens inverse.
Dans les traditions des ingénieurs alexandrins, mais pas Héron et d'autres, Archimède, pas vraiment alexandrins, enfin bref, tu faisais des ingénieurs alexandrins. Tu as par exemple des travaux très précis sur les calculs des hélices, justement. Tu as par exemple des possibilités théoriques mécaniques des hélices. Et même des appareils pour en fabriquer, parce que ce ne sont pas des objets, par exemple, l'hélice n'est pas un objet qui relève de la géométrie. Chez les Grecs, ce n'est pas euclidien.
Avec des pales,
Non, les spirales, disons, oui. Enfin.
La spirale n'est pas un objet de la géométrie, plateau, micro, euclidienne, tout ça. Alors qu'elle fait partie de.
Héron. Vous parlez d'Héron, tous les deux. J'ai dit tout à l'heure qu'on retrouve le vocabulaire d'Héron, mais je ne vous ai pas dit dans quelle œuvre. C'est en fait dans la Dioptre. Il y a exactement les mêmes termes mécaniques pour les roues dentées, pour des tas de pièces qui se retrouvent aussi dans la machine d'Anticythère. Je vous invite tous à Athènes. Hein, et si finalement la Grèce fait faillite, ça sera moins cher. Donc vous pouvez, parce que la Grèce, c'est un pays horriblement cher pour les touristes aussi. Donc nous espérons tous qu'elle va faire faillite. Non, sérieusement en plus. C'est la seule manière de revenir à un niveau plus humain, quoi. Et donc, il y aura peut-être une exposition, si tout va bien, à partir du mois de décembre, au Musée national archéologique, sur tout le naufrage d'Anticythère, qui n'a jamais été réuni dans un seul espace. Les différents objets sont un peu partout dans le musée et dans les caves aussi. Et là, ils vont faire ressortir une bonne centaine d'objets. Avec. Oui, alors, ça serait une exposition centrée sur, ou plutôt en partant de la machine, réfléchir un peu sur les représentations mécaniques du monde, du cosmos, disons. Le CNAM a une collection formidable de différents instruments, et donc ça pourrait mettre en dialoguer avec la machine d'Anticythère. Voilà. Alors, merci d'être venu. Merci.
Si vous en...